Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on mixe deux sujets très tendance. On commence avec une étude complète sur le marketing d'influence et on termine ensuite avec une conversation reliée au SMS marketing. Bonne écoute! Aujourd'hui, on vous présente une étude réalisée par Bazaar Voice, une organisation aux multiples solutions pour boutiques en ligne. L'étude qui se nomme « From the Kardashians to the Girl Next Door » et qui atteste des changements qui ont été opérés dans le milieu des influenceurs regroupe 9000 personnes interviewées à travers l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ainsi que les États-Unis. Et premier élément intéressant, Bazaar Voice nous range les influenceurs selon quatre catégories. Numéro 1, les experts du domaine. Et si je devais vous donner un exemple dans notre milieu, celui du marketing, ça serait par exemple les Neil Patel, Russell Brunson ou encore les Gary Vaynerchuk. Nous-mêmes, en créant beaucoup de contenu éducatif, on pourrait être vu comme un influenceur. Numéro 2, les stars des réseaux sociaux, donc des gens qui se sont faits sur un réseau social en particulier, comme des YouTubers par exemple. Le troisième segment, les célébrités, des gens qui sont connus en dehors des réseaux mais que tout le monde suit. Un exemple, Cristiano Ronaldo, on le regarde pour son foot, mais on le suit pour voir sa vie. Et le everyday utilisateur, et oui, vos amis, votre famille, qui ont un compte sur les réseaux et qui partagent du contenu, peuvent être traités comme un influenceur parce qu'ils ont un pouvoir sur vous, le bouche-à-oreille notamment. Et le numéro 4, le everyday influenceur, et oui, vos amis, votre famille, qui ont un compte sur les réseaux sociaux et qui partagent du contenu, peuvent être traités comme un influenceur parce qu'ils ont un pouvoir de persuasion sur vous, le bouche-à-oreille notamment. Et maintenant, qui est l'influenceur qui domine tout ce petit monde? C'est simple, le everyday influenceur suivi par l'expert dans son domaine. Bazaar Voice nous explique qu'autant les célébrités et les stars des réseaux sociaux avaient une grosse force de frappe auparavant, l'étude montre que seulement 7% des gens qui suivent ce genre de compte sont prêts à acheter un produit suite à une recommandation. Alors que pour les utilisateurs proches, c'est 42% et les experts, on descend à 35%, ce qui reste tout de même énorme. Et c'est pour cette raison que le UGC, donc le User Generated Content, qui repose sur des vrais utilisateurs, a autant la cote. D'ailleurs, les experts sont en moyenne moins suivis que les célébrités. On parle d'une différence de 5 points dans cette étude. Et maintenant, si je vous parle d'influenceurs, de micro-influenceurs ou même de nano-influenceurs, ça vous dit quelque chose? C'est la taille de leur communauté. Un nano-influenceur possède entre 1000 et 10 000 abonnés ainsi qu'une moyenne d'interaction avec son contenu de 8,8%, alors qu'un méga-influenceur, on parle ici de plus d'un million d'abonnés, n'en génère que 1,6%. C'est une donnée qui avait été partagée par le site Later, mais le plus intéressant dans cette thématique, c'est que 72% des interviewés se fichent totalement du nombre d'abonnés qu'un influenceur possède quand il se connecte. C'est probablement une des raisons qui explique l'interaction si forte avec les nano-influenceurs. Et sans surprise, quand on demande dans quel type de contenu les utilisateurs ont le plus de confiance, c'est 82,5% de l'organique qui ressort, alors que 17,5% vont citer des partenariats payants, donc de la pub. Par contre, là où j'ai vraiment découvert quelque chose, c'est que les utilisateurs sont de plus en plus véhéments avec les influenceurs qui trichent sur cette ligne, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour parler d'un produit, donc une pub, mais ne l'annoncent pas clairement. Les trois plus grosses sanctions proposées sont que l'influenceur soit banni de son réseau, qu'il soit banni pour un temps limité ou qu'il perde totalement la monétisation de son compte. Il y a donc un énorme risque lorsque vous passez par un influenceur à qui il ne déclare pas son contenu comme publicitaire. Donc, pour les influenceurs qui nous écoutent, soyez au courant, il y a un énorme risque à ne pas déclarer son contenu comme un contenu publicitaire. Et pour finir, l'étude nous donne quelques conseils sur comment traiter avec les influenceurs et je vous en ai pris quelques-uns qu'on ne dit jamais. Donc, l'influenceur que vous choisissez pour votre partenariat doit être un client type. Il ne doit pas être choisi en raison de son volume de followers. Et à ce sujet, nous avons remarqué que moins il avait de followers, plus il y avait d'engagement. Envoyer vos produits avant le lancement pour collecter du contenu pour le lancement est un excellent moyen de booster vos ventes. Et le dernier conseil qu'on peut vous donner, utilisez au maximum le contenu natif reçu par l'influenceur. Utilisez le contenu pour vos publicités, certes, mais également sur votre site, sur vos pages de produits et partout où ça peut aider votre client final à faire un choix. Et c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt sur la prochaine chronique. Très souvent, quand on pense à une stratégie marketing pour une boutique en ligne, on pense rapidement aux initiatives par email. Effectivement, en 2022, le email marketing reste une des stratégies les plus performantes sur le marché. Maintenant, qu'en est-il du SMS marketing? De quelle façon peut-on utiliser ce canal à son plein potentiel? Eh bien, pour une nouvelle fois aujourd'hui, Tony Trainer, responsable du emailing et SMS marketing chez Pure Commerce, est avec nous afin de nous donner la marche à suivre afin d'utiliser ce canal qui devient de plus en plus indispensable si on veut avoir du succès. C'est en 2022. Sans plus attendre, ma discussion avec Tony Tran. Mon nom est Antoine Gagné, je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Commerce Élite, notre tout nouveau balado où à chaque semaine, on analyse un volet tactique du commerce en ligne pour vous aider à augmenter les ventes avec votre commerce électronique. Et aujourd'hui, je suis avec le spécialiste emailing à l'interne chez Pure Commerce. Tony, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, toi-même, Antoine.
Ça va très bien, merci de le demander. Et récemment, on a eu des discussions ensemble sur le email marketing, mais aujourd'hui, on va pousser la réflexion un petit peu plus loin et on va discuter de SMS marketing. Tony, je pense que ça fait uniquement quelques mois maintenant que le SMS marketing avec Klaviyo spécifiquement, parce que nous, on ne fait que du emailing, que du SMS avec Klaviyo, est intégré au Canada.
Oui, oui, c'est très, au niveau légal, c'est très compliqué de mettre ça comparé aux États-Unis, je veux dire. Donc, ça a pris un peu plus de temps pour mettre ça en place. Mais effectivement, c'est comme la tendance de l'heure. Tout le monde en parle, puis c'est chaud là, en ce moment.
Exact. Et si vous faites du email marketing avec votre boutique en ligne et que vous n'utilisez pas encore le SMS, je vous invite à écouter les 10, 15, 20 prochaines minutes de ce podcast parce qu'on va essayer de vous expliquer quels sont les avantages, quelles sont les statistiques qui prouvent qu'à quel point en 2022, utiliser le SMS marketing, c'est un bon outil pour avoir du succès. Donc Tony, commençons et analysons le tout. Pourquoi le SMS et pourquoi ça a pris autant de temps avant que ça s'intègre au Canada et pourquoi c'est important pour des commerces en ligne?
Oui, c'est certain. Mais premièrement, c'est sûr que la fondation, c'est d'avoir de l'emailing. Tu sais, c'est quelque chose qui est déjà connu, qui est déjà dans un marché mature. Tout le monde fait ça et c'est des bonnes pratiques. Mais quand on veut amener ça plus loin, le SMS vient complémenter super bien le email, surtout quand c'est dans une même plateforme, dans le sens qu'on veut pas bombarder les gens de tout bord, tout côté. Et quand c'est la même plateforme, bien, on peut facilement contrôler ça. Mais pour revenir à ta question, pourquoi ça a pris tant de temps pour venir au Canada, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui vont essayer de contrôler. Tu sais, on parle souvent d'iOS 14, iOS 15, la confidentialité du monde. C'est pas tout le monde qui veut se faire harceler par SMS, etc., etc. Donc, il y a vraiment des lois qui sont plus strictes au Canada. Et même qu'en Europe, c'est encore pire. Donc, c'est même pas encore là partout. Donc, ça a pris un certain temps pour venir au Canada. Et qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que au Canada, on est un peu derrière les Américains en termes de technologie. Donc, il y a une espèce de mini-lag, de délai, d'adoption technologique. Mais aux États-Unis, c'est déjà at large. Tout le monde utilise ça. Beaucoup de monde achète par les SMS. Et au Canada, je vois que le marché se développe. Donc, c'est super important en ce moment de commencer à regarder ça.
Intéressant. Puis, comment qu'on est capable de trouver de la rentabilité? Je sais pas si tu peux peut-être nous donner des exemples aujourd'hui de comment peut-être certains chiffres pourraient épater ou même exciter l'audience qui n'utilise pas encore le SMS marketing.
Ben oui. Ben, tu sais, mettons, je te pose la question, un bon taux d'ouverture des emails, tu sais. Pour toi, c'est environ combien?
Ben, je pense que quand on est entre 25 et 35 %, on est assez heureux. Habituellement, c'est des très, très bons taux d'ouverture, je pense, entre 25 et 35
%. Ouais, c'est une bonne réponse. Puis là, ce qui arrive, je te dis, si les SMS, ce pourcentage-là, c'est pas d'ouverture, c'est de clics. Donc, dans les SMS, on peut carrément aller prendre un 15, 20, 25 % de clics. On parle même pas d'ouverture ici. Donc, okay, juste ce chiffre-là, tu vois déjà que le monde sont intéressés. Un texte, c'est très, très personnel. Tu sais, tu vas l'ouvrir peu importe qu'est-ce qui arrive parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Puis bien sûr, il y a des fraudes, c'est un marché qui était en évolution encore. C'est pas totalement contrôlé. Mais le but de ça, c'est pourquoi c'est rentable, c'est que tu as l'attention de la personne à 100%. C'est comme si tu as un parallèle dans les années 90 quand les emails venaient d'apparaître. Tu sais, la fameuse boîte AOL, que tu sais, oh wow, you have mail, puis c'est la nouveauté, puis tu as un email par jour, puis tu es super content. Mais les SMS, c'est la même chose. C'est juste à l'âge de, mettons, 20-30 ans. Là. Fait qu'en ce moment, c'est comme tout le monde ouvre ses SMS. Ou, tu veux savoir, là.
Donc, 15, 20, 25% de taux de clic. Est-ce que tu as des chiffres sur des taux d'ouverture ou c'est pas encore partagé par Klaviyo?
Qu'est-ce qui est spécial avec les taux d'ouverture avec le SMS, c'est que tu peux pas détecter quelqu'un qui ouvre son email, son SMS, parce que c'est comme c'est intégré dans son téléphone. Fait que pour ça, on n'a pas la stats, mais quand quelqu'un clique sur un lien, là, tu peux l'avoir. Donc, ça skip carrément au click-through rate, puis c'est de là que ça part à 15%. Fait que j'imagine que l'open rate, il doit être dans les 90, là, j'imagine, là.
OK. Bon, donc ça, c'est assez clair. Maintenant, bon, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont peut-être se poser des questions sur le volet légal. T'en as parlé un petit peu plus tôt des juridictions. Comment tout ça se met en place? Est-ce que c'est compliqué d'aller intégrer le volet de la légalisation pour, bien entendu, avoir le consentement des utilisateurs, comme quoi ils peuvent recevoir des alertes par téléphone? Comment tout ça se met en branle?
Oui, ben oui. Tu sais, je dirais que c'est comme une zone grise où c'est pas tant compliqué à mettre ça en place. Il faut juste savoir comment bien s'y prendre, puis c'est relativement bien documenté. Tu sais, c'est sûr qu'il faut s'entendre ici. Tous les conseils que je donne, c'est pas des conseils légaux. Là. On donne le standard de qu'est-ce qu'on peut faire, mais après ça, c'est à chaque entreprise de faire ses devoirs légal après. Mais au niveau légal, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est bien sûr rajouter les clauses qui parlent de nous allons utiliser votre numéro de téléphone, tu sais, à l'interne seulement. On va pas partager votre numéro de téléphone. Un peu même style que les emails, mais ici, c'est pour vraiment le spécifier pour les numéros de téléphone parce que c'est une donnée complètement nouvelle. Donc, on parle de termes et conditions d'utilisation et on parle de la politique de confidentialité là, qu'on va pas partager et qu'on va juste parler de promotion par SMS potentiellement, des affaires comme ça.
OK. Puis, juste pour être certain, on s'entend, la meilleure manière d'aller chercher le numéro de téléphone d'un client potentiel, ça va être dans des formulaires de capture ou est-ce que à ce moment précis, on va demander également le numéro de téléphone à notre client? Est-ce que d'autres techniques que ça présentement pour aller chercher les numéros de téléphone de clients potentiels ou même de clients existants?
La meilleure méthode que moi j'ai trouvé jusqu'à là, les meilleures pratiques, là, c'est vraiment de demander premièrement l'email comme normalement. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'en deuxième lieu, quand la personne revisite un site web, par exemple, on va plus lui demander deux fois son email, bien sûr. Fait qu'on peut faire une condition. Si on a déjà son email, client existant, donc, on lui demande une autre information, dont, exemple, le numéro de téléphone pour pouvoir lui communiquer par SMS. Puis ça, souvent, c'est étant donné qu'un SMS est très personnel, comme je l'ai déjà dit, si quelqu'un te connaît déjà, il y a plus de chances de donner son numéro de téléphone. Ça fait du sens.
Intéressant. Et j'ai vu très récemment des tests qui ont été faits avec certains commerces en ligne qu'on regardait un petit peu pour voir comment qu'on peut intégrer ça avec nos clients. Et des fois, Tony, on voyait que, bon, bien entendu, sur un formulaire de capture, sur un site internet, on demande le email pour peut-être s'abonner à une infolette et obtenir XYZ% de rabais sur une première commande. Mais quand en plus de ça, on met notre numéro de téléphone, on donne la possibilité aux gens d'avoir encore plus en termes de promotion. On dit, donnez-nous le numéro de téléphone et vous allez obtenir un cadeau parmi les 50 personnes qui vont nous avoir donné le numéro de téléphone. Je te donne un peu de contexte ici, à savoir, est-ce que personnellement, dans les cas que tu as eu et que tu as fait récemment chez Pure Commerce, tu t'es rendu compte que quand tu mettais, on va dire, un hameçon encore plus grande, quand on demandait le numéro de téléphone, tu avais plus de réponses, tu avais plus de résultats?
Ouais, ben je te dirais que la partie qui est super importante à comprendre, c'est les SMS sont une nouveauté de un, mais de deux, c'est que on est dans une vague de justement la confidentialité, c'est super important. Le monde veut protéger leurs données. Fait que c'est super important de prouver au monde que le SMS, que le de te donner leur numéro, c'est important. Puis il y a quelque chose, il y a une hameçon, comme tu dis. Fait que c'est pas juste, tu sais, nécessairement de dire hey, économiser 10% comme un email. Un email, c'est rendu comme le monde s'inscrit n'importe où, n'importe quoi, puis c'est pas grave. Mais SMS, c'est beaucoup plus personnel. Fait qu'il faut vraiment travailler sur l'offre. Il faut carrément regarder ça comme un produit. Tu sais, oui, tu offres, exemple, là, je sais pas, tu vends des jouets en ligne, puis là, le SMS en soi, là, c'est carrément un nouveau produit que tu veux vendre, en guillemets, parce que je veux pas, il y a un échange qui se donne d'informations. Fait que tu peux pousser ça comme étant un service VIP, un service de je mets à jour où est rendu ta commande par SMS. Fait que là, c'est rendu quelque chose de vraiment intéressant qui complète l'écosystème de ton magasin en ligne.
Littéralement comme si, hey, je vais te texter quelque chose d'exclusif, donne-moi ton numéro de téléphone, là.
Exactement. Tu peux pas juste traiter ça comme un obtient les nouveautés. Tu sais, c'est trop normal, le monde est habitué à ça, c'est pas attirant en soi.
OK,
c'est plus attirant.
tu dois donner quelque chose spécifique, relié à, bon, bien entendu, peut-être, est-ce que tu aurais des exemples d'offres, de structures d'offres qu'on pourrait partager avec notre audience aujourd'hui qui peuvent bien s'appliquer en échange d'un numéro de téléphone qu'on va demander à un futur consommateur?
Ouais, on a fait plusieurs tests avec plusieurs clients, puis je te dirais les trucs qui reviennent puis qui marchent très très bien ici là, en termes de best practice, on parle de exemple donner vraiment une exclusivité que vous allez recevoir certains rabais ou même certaines ventes qui vont pas être accessibles nulle part autre. Donc pas par email, pas par le site web, mais juste par les SMS. Puis même, on va aussi loin que donner un nom carrément à ce club exclusif là. Tu sais, l'exemple les VIP, exemple les, tu sais, on vend des souliers mettons là. On dit, je sais pas le groupe Autain, on va dire, je sais pas trop, c'est peu importe. Puis là, eux vont avoir ben une vente sur tel modèle de souliers seulement par SMS. Donc des événements secrets comme ça, ça pousse l'exclusivité. Puis c'est là que la personne se sent exclusive, se sent spéciale de recevoir ça, puis est contente, puis elle reste abonnée. Aussi.
Les résultats, ça en dit quoi quand tu testes des listes spécifiques comme ça? Est-ce que tu as des chiffres un peu à partager sur ce qu'on a été capable de voir en termes de vente?
Oui, c'est sûr que on peut pas généraliser si ça dépend vraiment de chaque industrie, mais je te dirais qu'en ce moment, au Canada, c'est un marché qui est en croissance. Donc, on voit un bon taux de réception en termes de clics, mais en termes de conversion, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Le marché n'est pas nécessairement là encore, mais il se dirige lentement. Il y a déjà des conversions, certains. Puis il faut comprendre que ça se rajoute à l'emailing. Donc, exemple, tu fais un 5% de plus, c'est un 5% de plus de vente. Fait que ça compte. Puis j'en profite juste pour glisser un mot sur les flows. Je trouve que c'est important de comprendre que les SMS, quand on parle de SMS, c'est pas juste on va jeter un SMS à toute une base pour dire qu'il y a une promotion. Parce qu'il faut comprendre que tu peux aussi inclure ça dans les flows. Exemple, un flow de cart abandonment, un panier abandonné. Quelqu'un qui visite ton site web, t'as son numéro de téléphone puis t'as son email, tu sais qui a abandonné son panier, ben tu le textes. Fait que tu peux faire une branche si t'as les deux informations, tu peux prioriser le SMS exemple. Puis là, tu dis « Hey, j'ai vu que t'as abandonné ton panier, tu regardais telle chose, tel produit, reviens. » Puis c'est là que c'est super personnel parce que la personne, elle sait très clairement qu'elle est allée visiter ton produit puis elle est partie. Fait que le SMS, il est beaucoup plus pertinent et personnel. Donc, c'est là qu'il y a un plus gros bonding, on va dire, avec la marque.
Très intéressant ce que tu viens de mentionner, Tony. Est-ce que tu es capable également de nous mentionner quel autre contexte qu'on veut utiliser les SMS? Donc, tu l'as mentionné, club exclusif, peut-être un flow spécifique. Est-ce que d'autres moments, d'autres contenus qui se prêtent bien à l'échange par SMS avec des consommateurs?
Tout ce qui est transactionnel, les updates de shipping, les promos exclusifs, comme j'ai dit, les préventes. Exemple, tu veux faire une vente. Comme tantôt, je disais, OK, on va faire seulement une certaine collection pour les SMS. Mais tu sais, c'est quand même compliqué. Puis, il faut avoir du stock pour s'assurer. T'sais. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de simplement dire, tu sais quoi, pour, à partir du, je sais pas, n'importe quoi, le 1er avril, on fait une vente. Mais pour les SMS, on va leur texter 3 jours en avance et dire, vous avez 72 heures accès à tout avant tout le monde. Fait que si tu as des items qui sont en low stock, eux vont avoir priorité. C'est une nouvelle collection, eux vont avoir accès avant tout le monde puis choisir, prendre le temps de choisir. Puis ça, en soi, là, dépendamment de l'industrie, ça peut faire toute une différence parce que tu as des collections limitées, le monde va se garrocher dessus, mais les SMS ont priorité.
Mmh. OK. Et peut-être pour terminer, Tony, conseil, si on veut se lancer demain matin avec le SMS marketing, c'est quoi la marche à suivre?
Quelques trucs ici, au fond, il faut comprendre que le SMS, c'est compatible avec les emails. T'sais, il faut pas faire un ou l'autre. Puis il faut pas penser que les SMS vont venir cannibaliser, on va dire, les emails. T'sais, ça va ensemble, c'est vraiment des partenaires, des alliés qui travaillent ensemble. Puis comme conseil, je te dirais que c'est un marché qui peut-être pas le meilleur exemple, là. C'est comme un marché, la bourse. Là. T'investis maintenant, puis ça va se rentabiliser éventuellement, mais on le voit déjà à travers, c'est mondial, là. Le monde achète déjà beaucoup sur mobile. On parle de, tu sais, les transferts WeChat, Facebook s'en vient avec le Facebook Messenger Payment, je pense que c'est déjà en test. Là. Les US sont déjà pleinement là-dedans. Fait qu'au Canada, c'est une question de quelques mois, sinon, tu sais, au pire, quelques années, que le monde vont massivement aller vers là. Puis si je peux faire un parallèle, c'est comme le commerce en ligne, quand on dit, ah, ben, le monde va pas acheter en ligne, nanana, mais là, ça s'en vient sur mobile. Là. Fait que si tu commences déjà à bâtir ta liste SMS légalement, t'es prêt, dès qu'ils sont là, puis tu es déjà dedans, ben c'est facile de rentabiliser ça en un claquement de doigts. Tandis que si tu commences dans un an, dans 2 ans, quand c'est vraiment là, tu viens de manquer le bateau, dans un certain sens.
Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on bâtit des offres exclusives uniquement aux gens qui ont donné leur téléphone cellulaire. On s'en rappelle, hein, c'est du data qui vous appartient. C'est du data qui vous appartient comparativement à des followers qui vont se retrouver sur des plateformes sociales. Ces followers-là ne vous appartiennent pas. Donc, des gens qui vous suivent sur une infolettre, des gens qui vous suivent avec leur numéro de téléphone, c'est du, pardonnez-moi l'anglicisme, ce qu'on appelle du first party data. Donc, utilisez ça à votre avantage et comprenez l'importance de l'avoir. On bâtit ces listes-là et comme Tony le dit, c'est important en ce moment de semer parce que ultimement vous allez être capable de cultiver quand le marché va avoir gagné en maturité. Tony Tran, avant de te laisser filer, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter pour notre audience aujourd'hui en ce qui concerne le SMS marketing?
Oui, ben c'est quelque chose qui coûte pas cher à essayer. Les emails, c'est déjà pas cher. Les SMS, c'est encore pire. T'as 160 caractères. Fait que tu peux pas ben prendre du temps puis faire ça, tu sais. Je vous conseille, lancez-vous, testez-le, puis au pire, ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins, vous avez essayé, puis vous avez commencé à adopter cette nouvelle manière de communiquer là, vos promotions et tout.
Comment se déroule le modèle de facturation de Klaviyo en ce qui concerne le SMS, Tony? Bien entendu, Klaviyo, c'est un nombre de emails et que tu en envoies certains par mois sur cette liste-là, tu vas payer plus que si tu as une moins grosse liste. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même approche avec le SMS?
C'est le même principe. Tu peux accumuler des SMS subscribers qui appellent, mais ils vont vraiment te charger sur le volume d'SMS que tu envoies. Mais si je me trompe pas, tu as un certain volume ou que c'est vraiment pas cher ou même gratuit, là, je pense en bas de 50. Fait que tu peux commencer juste à tester ça, peut-être tester l'eau, voir comment ça fonctionne, puis voir la réponse au fond de ton audience.
Fantastique. Tony Tran, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir de discuter avec toi. J'espère que les gens qui écoutent le podcast, vous allez mettre en pratique ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.